on ne se parle plus, on ne discute plus.
Le problème est trop grave pour qu'on perde du temps à ce genre de querelle un petit peu stérile.
Et une gare.
Vous diriez que depuis 30 ans, dans le monde, il y a un
dérèglement
climat.
C'est un lieu où on croise.
Oui ou non?
Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien.
Ça fait 50 ans que ça dure.
Les prévisions millénaristes, c'est qu'à...
Je n'ai pas fini.
C'est pas parce que je suis un homme blanc hétéro cisgenre que je vis ma best life et que tout va bien.
Moi, alors, je suis wokiste, mais on va très bien.
Les inégalités n'ont pas seulement explosé, elles se sont multipliées.
On ne se parle plus, on ne discute plus, on ne se dispute plus.
Non.
Grand écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.
Salut, moi c'est Solène.
Et moi c'est Lucie. Vous êtes dans Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.
On se retrouve chaque semaine pour décortiquer une situation du quotidien où on a eu l'impression de faire le grand écart entre des personnes qui n'arrivent plus à se parler.
Si le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous, mettez-lui 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et envoyez-nous tous vos retours et mots doux à grandecart@makesense.org.
De plus en plus, autour de moi, j'entends des discours négatifs ou méfiants envers le monde politique.
Tous, c'est vraiment tous que les pourris.
On n'y croit plus. Et je suis pas toute seule. D'après une étude qui s'intitule Fracture française, réalisée en 2023 par l'Ipsos et Soprasteria, le système politique national suscite la méfiance. Les Français pensent en majorité que les politiques sont corrompues. Seuls 17% accordent leur confiance au parti et 34% au président de la République. L'Assemblée nationale n'est pas épargnée, puisque la confiance dans les députés s'est aussi effondrée.
Tous, c'est un pour tous et tous pourris.
L'autre jour, j'ai écouté une interview de Claire Nouvian, militante écologiste à la tête de l'association Bloom, qui œuvre pour la conservation marine. Elle racontait un passage de sa carrière où elle a essayé l'engagement politique avec le parti Place Publique. Alors ça ne m'a pas du tout donné envie de changer d'avis sur le monde politique.
Les politiques, il y a un problème. Enfin, en tout cas, par rapport à mon niveau d'exigence éthique, d'intégrité intellectuelle, non, moi, j'y suis pas. Alors, il y a des individus super hein, dans le Parlement, donc je fais des généralités parce que, en gros, je trouve que c'est quand même une dynamique qui est trop tournée vers soi et qui est trop. Et le plus dur en politique, c'est. Je m'attendais à ce que ce soit. Enfin, parce que les combats, nous, on connaît les trucs hyper durs. On n'a vraiment pas du tout assez d'argent. On n'est pas du tout assez staffé. On n'a pas assez de personnes qui nous aident à gagner nos combats de l'intérieur, à faire la science, à faire les campagnes, etc. Donc, on connaît des conditions de travail dures. Mais on est hyper soudés. Genre, chez Bloom, on est hyper soudés. Les gens, l'équipe est extraordinaire. On a une super ambiance. J'adore l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, c'est gai. Enfin, c'est que du bonheur. Alors qu'en politique, on découvre qu'on ne doit pas se battre contre les idées mauvaises, contre les manœuvres toxiques de l'extrême droite européenne ou de la droite conservatrice, dramatiquement écocide, climaticide, etc. Non, en fait, on se rend compte que souvent, on se bat contre les individus à l'intérieur de son propre parti ou de son propre mouvement politique. Et ça, pour moi, c'est inenvisageable. Je me dis, mais c'est inenvisageable. Enfin, vous imaginez, c'est comme si je vous ai venu, on part à la bataille de l'océan, et qu'en fait, après, tout le monde se met à se foutre sur la gueule. Non, moi, je veux ci, je veux ça. Mais c'est pas possible, en fait, on est inefficace. Puis où est la beauté du mouvement? Où est l'entrain? Où est la gaieté? Où est l'énergie? Et moi, je sais pas faire ça, en fait. Et par exemple, dans une constitution de liste, mais je vous jure que si vous voulez vivre un truc où vous, en fait, vraiment, quand on fait une constitution de liste sur qui va être sur une liste politique, qui va être en position éligible sur la liste, et on sait très bien que selon les estimations, le pourcentage qui est dans les sondages, le parti, je sais pas, ou le mouvement va faire 5, 6, 7, 10%, et qu'en fonction de 7 ou 8%, il y a une personne en moins, une personne qui saute, et elle se retrouve à la frontière. Et donc les places sur les listes, donc qui est sur la liste, et ensuite qui est en quelle place sur les listes, si vous voulez vraiment perdre foi en l'humanité, vous faites partie d'une négociation de liste. Je vous jure que tout le monde fait une dépression après le passage des listes, parce que même les individus les plus magnifiques, que vous adoriez, que vous admiriez, ils se révèlent assez mesquins, voire pire. Et moi, je sais qu'il y a 2-3 personnes que je ne citerai évidemment pas, mais à qui je ne parlerai vraiment plus jamais de ma vie, parce que je sais que ce sont des gens qui peuvent, mais littéralement, vous assassiner avec un poignard dans le dos, quoi.
On est d'accord, hein, ça donne vraiment pas envie. Les égos, la lutte pour le pouvoir, les violences au sein du milieu. ce récit entretient bien l'image et le discours du tous pourri. Mais est-ce qu'on peut vraiment agir sans politique? Est-ce que ce discours tous pourri n'est pas aussi très dangereux? Et si les partis politiques ne sont plus à la page, alors comment organiser le pouvoir? Autour de moi, des personnes continuent à y croire et s'engagent dans des partis. Elles doivent bien avoir des raisons de s'engager. Alors je suis allée demander à ma collègue Marion, qui milite à LFI, ce qu'elle répond au discours tous pourris.
J'ai du mal à jeter la pierre aux gens qui disent ça, dans le sens où ce qu'on voit, c'est que, oui, enfin, il y a tellement de polémiques, enfin, si on pourrait remonter encore avant, mais là, déjà, si on prend depuis qu'Emmanuel Macron est président, le nombre de scandales qu'on enchaîne avec, à chaque fois, disons, des débuts de polémiques et des choses vraiment graves qui se passent, et finalement, personne n'en tire de conclusion, et les gens peuvent rester en place, et parfois sur des choses très très graves. Il y a aussi la question du mode de représentation. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais candidate aux élections sénatoriales à Paris. Quand on regardait les listes en fait, de beaucoup d'organisations bon, qui fournissaient le plus gros des sénateurs, quand on voit finalement que la deuxième chambre du pays, elle est constituée par des gens qui sont élus depuis des années et qui enchaînent mandat sur mandat à ne vivre que de la politique et finalement être un peu déconnecté, à mon sens, du quotidien des Français qui, je sais pas, prennent le métro pour aller travailler le matin, qui prennent leur voiture, qui se retrouvent à discuter entre eux, etc. Il y a à la fois, je dirais un peu ces deux choses-là qui se juxtaposent, il y a à la fois donc, voilà, des gens qui se mettent en dehors du cadre de la loi, qui font des choses qui sont éthiquement scandaleuses et qui ne sont jamais sanctionnés pour ça. Et on a un corps politique qui, à mon sens, est aussi loin, en fait, de la morphologie de qui sont les gens aujourd'hui, avec des gens qui, depuis 30 ans, enchaînent les mandats, etc., bien qu'en étant parfois, je sais pas, imaginons, de gauche, du côté du peuple, etc. Et donc, il y a ces deux choses-là qui, à mon sens, alimentent ce discours-là, qui n'est pas forcément illégitime. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce qu'on propose comme solution. Et là, je pense que, par exemple, côté France Insoumise, on propose une refonte des institutions dans le but de redonner le pouvoir aux gens, donc c'est ce qu'on appelle la 6ème République quand on parle de constituante, etc. À mon sens, ça c'est une manière de résoudre cette crise-là en permettant de révoquer les élus qui, voilà, seraient pointés du doigt pour des choses scandaleuses, en révoquant les gens aussi qui n'honorent pas leur mandat et ce pourquoi ils sont élus, en limitant aussi le nombre de mandats dans le temps, en permettant d'avoir une rotation plus forte en fait des gens et d'éviter de surprofessionnaliser la politique comme on l'a aujourd'hui. Après, ça peut être d'autres choses aussi, je pense par exemple côté syndical, c'est de redonner aussi par exemple les clés des entreprises aux travailleurs, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de choses, je pense, à chambouler, révolutionner dans nos institutions à tous les niveaux pour résoudre ce sentiment-là, cette critique-là, qui, je trouve, au stade où on en est aujourd'hui, politiquement, est plus que légitime. Et je comprends les gens qui éprouvent ça, en fait, quand on voit ce qui est donné à voir de la politique au quotidien. Eh bien, franchement, souvent, même en tant que militant politique, parfois, on se dit que c'est assez écœurant.
Toujours dans cette étude Fracture française d'Ipsos et Soprasteria, je lisais que près d'un Français sur deux dit aujourd'hui se sentir appartenir à une France qui serait en colère et très contestataire. 45% d'entre eux, soit 9 points de plus en un an. On sent une colère sombre, un sincère ras-le-bol de la situation. Alors, comment expliquer cette profonde colère? J'écoutais récemment le podcast Chaleur humaine, dans lequel intervenait Hélène Landemort, professeure de théorie politique à l'université de Yale aux États-Unis. Elle évoquait une étude réalisée aux États-Unis qui illustre le décalage entre ce que les gens veulent et ce qu'ils obtiennent dans la réalité après avoir voté pour leurs dirigeants et leurs élus. Cette étude a été menée par deux politologues américains, Martin Gillens et Benjamin Page, qui s'intéressaient au lien entre les attentes des gens vis-à-vis des politiques publiques et l'impact de ces attentes sur les décisions prises ou non. Autrement dit, les attentes des électeurs, basées sur des promesses électorales, sont-elles honorées? Ils ont observé sur plusieurs décennies, des années 80 aux années 2000, qu'il n'y avait pas de corrélation entre ce que les majorités veulent et ce qu'elles obtiennent, une fois qu'on a pris en compte les préférences des 10% les plus riches. Et cela suggère également fortement que ce qui façonne les politiques publiques, ce sont les préférences des 10% les plus riches. Alors ça, c'est une étude menée aux États-Unis. Mais est-ce vraiment la même chose en Europe ? Des chercheurs européens se sont posé la même question et ont conduit une étude semblable en 2018 sur le cas de l'Allemagne. Ils se sont dit que le résultat serait sans doute différent puisqu'il y a beaucoup moins d'argent privé en Allemagne en politique qu'aux États-Unis. Eh ben non, même résultat. Là encore, pas étonnant que cela nourrisse un sentiment d'impuissance et de ras-le-bol. Les promesses et les programmes ne sont pas tenus. D'autres priorités et d'autres pressions l'emportent. Pas étonnant alors que ces dernières semaines, lors de plusieurs discussions, le terme de rupture soit revenu plusieurs fois. On entend l'envie que ça change, que cela s'arrête, quitte à aller s'en remettre à une seule personne. Dans l'étude Fracture française, toujours, pour 82% des Français interrogés, il faut à la France un pouvoir autoritaire à travers, je cite, « un vrai chef pour remettre de l'ordre ». Si l'on écoute certains historiens, cela pourrait être lié à une sorte de nostalgie des rois de France, de l'homme providentiel. Un héros qui va nous sauver, nous, victimes, face aux bourreaux. C'est un narratif qui marche très bien. D'ailleurs, ce récit me rappelle drôlement le triangle de Cartman, particulièrement dangereux, connu également sous le nom du triangle dramatique. C'est un triangle qui représente les relations entre trois rôles d'un jeu psychologique dangereux, le persécuteur, le sauveur et la victime. Le souci dans ce schéma, c'est que cela se solde invariablement par de la souffrance. Une personne seule ne peut pas tout savoir. Personne ne va nous sauver. Pourquoi n'est-ce pas aux personnes concernées, touchées par la situation, de réfléchir, de s'organiser et de faire des propositions de décision, pouvant être ensuite validées par des élus ? Ça nous éviterait d'avoir des décisions et des plans faits par des personnes hors sol, des ministres de la Santé qui n'ont jamais passé plus de 3 semaines dans un hôpital, un ministre de l'Agriculture qui ne sait pas le nom des légumes.
La race de cette vache ?
Une limousine.
C'est une blonde d'Aquitaine.
Cela éviterait les prises de décision sur la base de recommandations faites par des gens très intelligents, payés très cher, dans de très beaux cabinets de conseil parisiens, mais qui sont très 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 loin de la réalité des personnes.
Tout ce qu'on évoque depuis le début, c'est un problème de fonctionnement de notre démocratie. Trop souvent, quand on parle de démocratie, on pense au vote. Mais je parle pas ici de la démocratie électorale où on va aux urnes une fois de temps en temps, le mode de sélection par l'élection. Non, la démocratie, c'est jouer le jeu de l'égalité des voix, notamment. Croire en l'égalité, et notamment l'égalité des intelligences, pour un pouvoir dans les mains du peuple, cela fonde la démocratie. Alors oui, cette égalité, on pourrait assumer que ça demande trop d'efforts et qu'une élite minoritaire peut bien décider pour les autres. Mais dans ce cas, ça s'appelle l'aristocratie. Pour le philosophe pragmatiste américain John Dewey, la démocratie doit être exercée partout, et par tous et toutes. La démocratie ne se joue évidemment pas qu'au moment du vote, pas du tout. Il faudrait faire vivre la démocratie dans nos prises de décision, en entreprise, à l'école, à la maison. Tout le monde peut agir, et tout le monde peut se faire un point de vue pertinent sur les problèmes qu'il concerne. En fait, à partir du moment où l'on s'implique dans la résolution d'un problème, où l'on va chercher l'information et où l'on expérimente, tout le monde peut s'emparer d'un sujet. Alors des tentatives ont été faites du bout des doigts pour remettre cette égalité des intelligences au centre, et permettre aux gens de s'emparer des problèmes qui les touchent. Prenons l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat.
En 2019, le Premier ministre français, Édouard Philippe, demande au Conseil économique, social et environnemental d'organiser une convention citoyenne. Cette convention regroupe alors 150 hommes et femmes volontaires tirés au sort parmi la population française. Ce collectif a pour objectif de définir une série de mesures structurantes pour, je cite, parvenir dans un esprit de justice sociale à diminuer d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre de la France d'au moins 40% par rapport à 1990. Parmi les Français tirés au sort, il y avait des agriculteurs, des enseignants, des cadres, des boulangers, des avocats, bref, un vrai panel de Français et de Françaises. Certains avaient une sensibilité pour les sujets climatiques, d'autres n'y connaissaient rien du tout. Mais tous sont concernés par les conséquences. Le principe de ce processus était de prendre le temps de saisir les enjeux, de se former, d'avoir accès à des experts pour poser des questions, pour enfin être en capacité de rédiger des propositions. L'implication des individus a été immense et facilitée par un processus d'intelligence collective. L'intelligence collective vient des échanges entre les individus. Ce n'est pas la somme de l'intelligence des individus, 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais l'interaction de ces intelligences entre elles qui augmente leur potentiel. L'autre aspect incroyable de l'intelligence collective, c'est que cela augmente l'implication. Quand on donne une idée, qu'on se sent impliqué dans sa construction, on a forcément plus envie de la mettre en œuvre.
Le problème de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que Macron n'a pas tenu sa parole, alors qu'il avait dit « je m'engage à reprendre sans filtre ».
Si ce qui sort de la Convention, c'est un texte quasiment rédigé, précis, et qui peut être appliqué, il sera appliqué sans filtre.
La plus grande part des propositions n'ont finalement pas été appliquées, contrairement aux promesses qui avaient été faites. Ça a été super décevant. Mais pour autant, on a bien vu la qualité des propositions faites, l'implication des personnes qui ont été sollicitées et le fait que certaines d'entre elles sont encore très engagées pour le climat. Quand on donne l'occasion de s'impliquer, les individus sont capables de faire des propositions. La politologue Hélène Landemort recommande d'institutionnaliser une assemblée permanente d'individus, ce qui permettrait de donner une légitimité institutionnelle à ce type d'organisation pour qu'elles aient la possibilité de prendre des décisions. Elle explique que si l'on n'a pas d'ouverture à ces questions de légitimité des citoyens, le risque de bascule vers l'autoritarisme et le fascisme augmente très fortement.
Il se pourrait que la principale cause de notre impuissance à faire face à la crise climatique soit démocratique. Autrement dit, notre incapacité à prendre des décisions collectivement en donnant une voix à tout le monde. C'est un changement de modèle de société dont il est question, pas juste d'efforts individuels. Pour que ce changement s'opère, il faut que ce soit celles et ceux qui le subissent qui décident la manière de transformer les choses. Alors le grand défi, c'est les différences de temporalité. On vote pour des élus au pouvoir pendant 5 ans qui doivent prendre des décisions dont les résultats se feront sentir dans la prochaine décennie, au moment où ils ne seront sans doute plus au pouvoir. Il y a un vrai décalage de temporalité entre ce pourquoi on vote et les besoins pour le futur. L'économiste Christian Gaulier l'explique très bien. Les coûts sont pour aujourd'hui, les bénéfices sont pour plus tard. C'est la même chose lorsqu'un jardinier plante des graines en hiver et qu'il récolte les légumes en été. On parle de jardin, et face à la crise de légitimité profonde que nous traversons, il faudrait, en parallèle d'actions pour changer le système, être capable de recréer de la confiance au niveau local. Pourquoi pas dans des jardins partagés. La démocratie, ça s'apprend, ça se pratique. Joël Zask, qui est également une spécialiste de John Dewey, voit dans les jardins partagés une école de la démocratie. En s'impliquant dans un jardin, on gagne en humilité. On comprend que toute chose n'obéit pas à une rationalité fondée sur l'homme. C'est une nouvelle temporalité, mais aussi un décalage entre la cause, je plante un jour une graine, et un effet, la fève pousse ou pas, ou un pissenlit pousse, qui participe à nous rendre moins orgueilleux. En plus, cela a le mérite de ne pas être élitiste, ni de demander une immense formation a priori. On trouve des jardins partagés dans le monde entier, qui ont presque tous en commun une charte, une forme de petit contrat, une cabane à outils, une mini-formation d'entrée.
Clairement, la création du jardin partagé est un acte profondément politique. Mais c'est une politique qui n'a rien à voir avec celle, enfin, en tout cas qui est vraiment différente de celle qui consiste à faire une manifestation contre le pouvoir en place. C'est pas du tout de cet ordre-là. C'est un ordre... C'est, disons, qui effectivement renoue avec cette idée d'autogouvernement, mais qui lui donne en plus une charge exemplaire, qui lui donne la charge de la capacité d'être comme un modèle, ce que Guattari appelait une tentative microscopique, mais qui est extrapolable à des échelles et en des lieux extrêmement différents.
On agit sur son lopin de terre, à l'abri des regards, dans un aller-retour entre ce qui est individuel et ce qui est commun. Les individus développent leurs compétences et nourrissent le commun. Le commun se développe pour nourrir concrètement les individus. Enfin, c'est une remise en cause de la propriété. Pensons à un prunier. Soit il ne donne rien, soit il donne trop de prunes et on doit donc partager. L'idée de propriété exclusive n'a plus de sens.
Ce qu'on en retient, c'est qu'agir en dehors du cadre politique peut être très politique. Mais la politique, ce n'est pas seulement une question d'appartenance à un parti. Si on passe trop de temps à se réjouir d'une identité ou de valeurs communes, on risque de se renfermer sur soi-même. La politique doit résolument être tournée vers l'action collective et l'expérimentation vers les prochaines étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réduire notre sentiment d'impuissance quand on pense tous pourris en parlant de politique ?
S'engager en politique, ça peut être à l'échelle de son quartier. Le local peut être une bonne façon de participer à des prises de décision collectives en restant dans des dynamiques concrètes.
On s'intéresse à la délibération, au tirage au sort et aux autres modes de prise de décision.
Il existe de plus en plus d'initiatives qui accompagnent de nouveaux profils politiques pour changer le jeu politique. On pense à l'Académie des futurs leaders, fondée par la militante Alice Barbe.
On peut questionner le mode de gouvernance de son entreprise ou à minima de certains de ses comités pour y insérer de plus en plus de pratiques démocratiques.
On s'engage dans une association pour, si on a de la chance, découvrir un mode de gouvernance différent du mode hiérarchique classique, même si ce n'est pas si facile de réinventer les choses.
On regarde la série Parlement pour découvrir l'organisation de la politique à l'échelle du Parlement européen, même si ça peut aussi franchement dégoûter de voir les lobbies en action.
Grand écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.